émission présentée par Gérald.
Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Pluriel Gay. Merci aux auditeurs et aux auditrices, aux auditeurs et les autres qui ne se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre de nous rejoindre. Bernardo, tu es là ce soir, mais nous n'avons pas notre petite Lolo. Elle ne pouvait pas venir, Laurence. Donc je suis livré seul face aux sœurs que nous accueillerons tout à l'heure. Et toi, tu es là quand même, toujours fidèle au poste.
Oui, bonsoir à toutes, bonsoir
à tous. J'entends plus rien maintenant.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
D'accord.
Oui, j'ai baissé les casques.
Oui, parce que là, tu nous as envoyé le son, déjà que je suis sourd, là, ça a fini le travail. Donc comment il va, Bernardo?
Bah, il va bien.
Hein. Il va bien ?
Oui.
Bon, t'es parfait.
Depuis vendredi soir.
Alors ce soir, nous avons nos sœurs de retour. They are back from outer space. Elles sont de retour. Non, mais il y a longtemps que vous n'étiez pas venues quand même. C'est vrai que il est difficile de vous coincer, je dirais. Vous avez beaucoup d'occupations.
Oh, il y en a qui arrivent très bien.
Je ne dois pas avoir la bonne méthode. Vous avez une vie aussi retirée dans vos cellules respectives, une vie faite d'abnégation, je suppose, en tant que sœur.
On souhaite.
Donc, j'ai ce soir le plaisir et le bonheur d'avoir sur les 7 sœurs du couvent, 2, sœur Anna Maria.
Bonsoir.
Voilà, avec toujours le même bonsoir très profond, ce que j'appelle le bonsoir vaginal.
Ou anal, c'est quoi ?
Anal, c'est mieux.
Ouais. Marie Digue, qui est qu'on avait déjà accueillie la dernière fois,
oui,
et qui est de retour parmi nous aujourd'hui, donc en accompagnatrice de sœur Anna Maria, mais aussi en tant que collègue, et puis qu'il y a des choses à dire aussi, Marie Digue, je crois.
Un petit peu,
quand même. Un petit peu, ouais, voilà.
Oui, enfin, faut pas trop l'écouter, hein, elle dit beaucoup de conneries.
C'est vrai ?
C'est vrai.
Bon, ben, on jugera sur pièce tout à l'heure. Alors, donc, cette semaine est une semaine un petit peu spéciale, même cette quinzaine, puisqu'on est entré en plein dans la quinzaine des cultures, donc de la fierté LGBT. L'inauguration, d'ailleurs, de cette quinzaine a eu lieu, c'était vendredi, hein, c'est ça, vendredi dernier, c'était le 12 juin, et c'était au Musée Gadagne. Et nous avions, à l'occasion, enfin, j'étais parti avec mon petit micro, là-bas, j'avais rejoint un petit Bernardo, qui était à côté du buffet en train de picoler, et pendant qu'il picolait, moi, je travaillais. Et j'ai donc pu coincer aussi, là, cette fois-ci j'y suis arrivé, plusieurs personnes, enfin pas beaucoup en fait, hein. J'ai fait quelques petites interviews dans la mouvance de la quinzaine, je dirais, sur lesquelles vous pourrez intervenir, d'ailleurs mes sœurs. Je sais aussi que vous avez des choses à dire, donc on en profitera aussi pour vous écouter. Mais d'abord, je voudrais qu'on écoute le premier son que j'avais fait, donc c'était au Musée Gadagne, pendant la fête, c'était avec Sébastien Cambeau, que vous connaissez, qui travaille donc à l'ENIPS. Et donc on a parlé donc de VIH, on a parlé... de la semaine flash test dans laquelle mes sœurs vous êtes impliquées. Sœur Anna Maria, faut se réveiller un petit peu.
Oui, mais je tente, je me focalise avec moi-même. Je cherche mon moi intérieur.
D'accord.
C'est à moi de parler.
Ouais.
Pardon, excuse-moi. Non, en fait, on devait intervenir, ouais, avec une autre association, mais on a des emplois du temps très chargés. D'accord. Dans nos cellules et ça a été un peu compliqué.
D'accord. C'est bien ce que je disais, vous êtes surbookées, mes sœurs.
Un petit peu.
La vocation, hein, c'est quelque chose. Bah, de...
Surtout elle, maintenant, elle a adopté un lapin. Elle n'est
plus
dispo du tout.
Une lapine. Hein,
Une lapine, ouais.
C'est comme une chatte. Avec des oreilles.
Mais c'est une lapine, voilà. Les chattes aussi ont des oreilles.
Ça dépend des chattes.
Ouais. Alors, on va écouter donc Sébastien de l'ENIPS qui nous parlera de VIH, de flash test.
Merci de ta participation.
Sœur Anna Maria, on ne se moque pas de ses collègues.
Ah ben, bien sûr que si, pourquoi vous croyez qu'on l'a élevé ?
Puis après, on reviendra un petit peu justement sur certains aspects, notamment dimanche, c'était la journée mondiale du don du sang. Et je voudrais revenir sur le fait que les hommes homosexuels, il y a des pratiques HSH, comme on dit, ne peuvent toujours pas donner leur sang. Voilà, donc du coup, ça on n'en parle pas, hein, avec Sébastien, on en parlera après. Je voudrais savoir, connaître votre point de vue aussi, mes sœurs, parce que je sais que vous en avez un. Les sœurs sont intimement liées quand même à la lutte contre le VIH depuis les origines. Donc on va écouter maintenant Sébastien Cambeau de l'ENIPS, si monsieur Bernard veut bien nous envoyer le son au Musée Gadagne, inauguration.
Alors je suis avec Sébastien, donc de l'ENIPS, et qui est aussi chargé de mission au Corévi. Alors Sébastien va déjà nous expliquer ce qu'est l'ENIPS. Enfin, Sébastien, on te connaît déjà à Radio Pluriel, mais au cas où des auditeurs n'auraient pas écouté nos émissions précédentes, serait bon de rappeler donc l'ENIPS, de quoi s'agit-il ?
Oui, bonsoir Gérald, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Pluriel. Donc l'ENIPS, c'est l'équipe nationale d'intervention et de prévention en santé pour les entreprises. C'est en fin de compte l'ancien SNEC Prévention qui dorénavant s'intéresse toujours aux gays, toujours aux hommes qui aiment les hommes, et aussi à leurs partenaires libertins multipartenaires comme l'ensemble des établissements mixtes que nous côtoyons de plus en plus.
Le SNEG n'existe plus ou il existe encore?
Alors le SNEG existe toujours en ce qui concerne la partie syndicale. Ça existe toujours, bien sûr. Et puis on s'est scindé en deux. Donc d'un côté, le syndicat continue sa vie, le SNEG & Co. Et puis on a monté une association de prévention et de santé communautaire qui s'appelle l'ENIPS.
D'accord. Donc en fait, toi, à l'ENIPS, tu occupes un poste prééminent, je dirais.
Ben, disons que je suis le délégué régional de l'ENIPS depuis maintenant 15 ans. Avant, c'était le SNEG Prévention. Et je m'occupe donc effectivement d'une centaine d'établissements et de pas mal d'associations avec qui j'ai des rapports en fonction d'événements, comme actuellement pendant la quinzaine des cultures et avec notamment la marche des fiertés aussi de Lyon.
D'accord, donc on reviendra un peu plus tard sur l'événementiel justement lié à l'ENIPS et lié à cette quinzaine des cultures qui débute aujourd'hui au musée Gadagne. Donc tu es aussi chargé de mission du Corévi. Alors rappelle-nous aussi ce qu'est le Corévi.
Alors, la coordination régionale sur tout ce qui est lié au VIH, c'est-à-dire au VIH, le virus du sida. Je suis chargé de mission pour cet organisme qui, dans lequel il y a à la fois, on va dire, des collèges de professionnels de santé et aussi d'associations. Et ma mission particulière, elle est d'organiser la semaine Flash Test, c'est-à-dire la semaine du dépistage rapide du VIH-Sida, ici dans le Rhône. Et puis, j'ai une autre mission aussi, ça sera sur le 1er décembre. On aura peut-être l'occasion d'en reparler à un autre moment.
Le Corévi, ça dépend d'une institution particulière, ministère de la Santé ou la Direction régionale de la Santé, par exemple?
En fin de compte, non, c'est vraiment un organisme à part, complètement séparé, qui n'a pas de structure juridique. Ce n'est pas une association, c'est un regroupement. Comme une sorte de GIE et on ne dépend pas directement, on va dire, des agences régionales de santé ou de la Direction générale de la santé, mais on travaille bien sûr en étroite collaboration avec l'Agence régionale de santé, la Direction générale de la santé, l'INPES bien sûr, et l'ensemble, on va dire, des structures hospitalières et associatives nationales et régionales.
En parlant de ça, d'ailleurs, le centre de santé sexuelle, est-ce qu'il se porte bien ou pas?
Je vois que Gérald est bien informé, puisqu'il est question, effectivement, que nous puissions monter d'ici, on va dire, l'automne, l'hiver prochain, une antenne du centre de santé sexuelle qui existe déjà. Et donc, cette antenne aura lieu en bas des pentes, dans le quartier gay, justement, historique de Lyon, qui sera ouvert à tous, mais c'est vrai qu'on est automatiquement, en étant automatiquement dans ce genre de quartier, bah on aura certainement l'intérêt d'avoir une santé communautaire forte.
Alors tu as évoqué justement la semaine flash test. Alors ça n'a rien à voir avec l'autotest qui va être normalement diffusé en pharmacie à partir de la rentrée. On est d'accord, c'est quelque chose de différent.
Oui, en plus, tu as remarqué toi-même que voilà, l'autotest qui devait être prévu pour début juillet, malheureusement, ce ne sera pas avant le début de la rentrée.
Bon, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose quand même, l'autotest?
Mais bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, plus on augmente la palette de dépistage, plus on augmente cette possibilité, chacun va trouver son moyen. Celui qui va au laboratoire depuis 40 ans, ben, il ira au laboratoire depuis 40 ans. Celui qui va au CDAG continuera à aller au CDAG, qui vont devenir d'ailleurs, entre parenthèses, un autre nom qui s'appelle CEDIG. CEDIG. Alors, c'est pour, en fin de compte, prendre en compte beaucoup plus la santé sexuelle du patient et pas simplement ses maladies sexuellement transmissibles. Et moi, je trouve que l'autotest, oui, c'est une très très bonne idée. Donc, justement, nous, dans la création du centre de santé sexuelle, cette idée, elle est bien sûr de généraliser aujourd'hui une offre à la fois de dépistage, mais c'est aussi de dire, à côté du dépistage, qui est très important, on le rappelle tout le temps, de l'ensemble des infections sexuellement transmissibles, mais pas simplement du VIH, il y a aussi tout ce qu'on peut appeler ce qui permet d'avoir une bonne santé sexuelle, selon les critères de l'OMS, de l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est-à-dire pas simplement le côté médical, mais aussi le côté psychologique.
Donc l'ENIPS est toujours animatrice, je dirais, d'événements donc liés à la lutte contre le VIH, et donc tu évoquais la semaine Flash Test.
Oui, donc cette semaine Flash Test, on l'organise cette année autour donc de la quinzaine des cultures et de la marche des fiertés, justement pour aller dans les directions, on va dire, à la fois de la communauté homosexuelle, lesbienne, LGBT, on va dire, LGBTI même. Et puis aussi pour aller à la rencontre de ces hommes qui peuvent avoir des doubles vies dans certains saunas où il y a des hommes qui sont mariés, qui ont un certain âge, qui ont toujours une double vie. Et puis aussi dans des lieux de rencontre extérieurs, on va aller sur des lieux de drague pour rencontrer, un peu comme le fait HF Prévention en Ile-de-France, une population qui est totalement en dehors, on va dire, de la communauté homosexuelle et qui a une, eux, encore plus une double vie, si je peux me permettre, puisque elle est hyper furtive. Dans cette idée que c'est entre le travail et le fait de rentrer dans leur famille qu'ils ont une double sexualité.
Et dans le cadre donc de la marche des fiertés qui aura donc lieu samedi le 20 juin, les NIPS participent aussi à une action, toujours dans le cadre du flash, la semaine flash test, c'est ça ?
Alors en fin de compte, on a carrément organisé sur le forum et le village associatif Place Bellecour un immense stand de 50 mètres carrés où il y aura l'exposition Sexpo de l'ALS avec donc un stand prévention et un stand dépistage avec la possibilité de faire des dépistages puisqu'on aura aussi ce qu'on appelle des véhicules permettant le dépistage qui sont pas autre chose que des camping-cars déguisés et on aura donc cette possibilité pour l'ensemble des personnes qui le souhaitent de faire le dépistage avec l'association Virage Santé qui est donc l'association des médecins liés à la coordination VIH, et puis aussi, et qui est aussi le réseau Ville-Hôpital important de Lyon, et puis l'association AIDE aussi, donc voilà, AIDE, l'ALS, le Corévi, puisque c'est l'organisation générale, les NIPS, bien sûr, et puis Virage Santé, et puis n'oublions pas non plus nos centres de dépistage anonymes et gratuits qui nous permettent de nous dépister tout au long de l'année et aussi de plus en plus grâce à l'équipe mobile d'être au contact des populations.
À l'heure actuelle, on dit que la maladie, enfin le VIH en tout cas, toutes les problématiques liées au VIH deviennent invisibles, on dirait. En tout cas, on a l'impression que la prévention n'est plus à l'ordre du jour. Le VIH disparaît un petit peu, je veux dire, des marges de fierté. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je sais ce que tu vas me dire, évidemment, que la maladie est toujours là. Mais d'où vient cette désaffection, je dirais, par rapport à la maladie, en tout cas, et au VIH ?
Bien, le diabète, ça se voit, le cholestérol aussi, le VIH, ça se voit plus, carrément plus, quasiment plus, en tout cas. Et ce qui se passe, c'est qu'une maladie dont on ne voit plus les séquelles ou les symptômes, les séquelles, malheureusement, encore pour certaines personnes, on les voit, mais les symptômes aujourd'hui, pour les personnes qui se contaminent aujourd'hui, on ne les voit plus. Certains jeunes pensent qu'il suffit de prendre un cachet par jour et puis voilà, l'affaire est résolue et on s'en fout complètement. Moi, je pense plutôt que avoir le VIH aujourd'hui, c'est griller un capital pour ensuite. L'homosexuel a du mal à penser à ensuite, il pense souvent à la réalité du terrain, du moment, pardon. Et au temps présent, en tout cas. Et je pense qu'il faut apprendre à tous à vieillir soit avec, soit sans, mais de préférence sans, c'est quand même vraiment mieux parce que c'est un capital qu'on grille pour la suite quand on aura d'autres complications sur d'autres maladies qui peuvent arriver à n'importe qui par la suite.
Et par rapport à la PrEP, justement, que tu évoquais, parler du cachet, on pense au Truvada, évidemment. Qu'est-ce que tu penses, donc, de cette méthode de prévention, dirons-nous ?
Bien, moi, je trouve que cette méthode, on ne peut pas dire l'inverse. Je crois que la PrEP, elle marche au niveau de l'essai. C'est-à-dire, scientifiquement parlant, on a démontré que 86% des personnes qui avaient utilisé cette PrEP, ça avait fonctionné pendant 2 ans et demi, 3 ans. Ça veut dire quand même que 14 personnes n'ont pas été assez observants pour que ça fonctionne. Parce que ce n'est pas obligatoirement le fait que la molécule fonctionne ou pas, ça dépend surtout de l'observance que l'on a par rapport à cette PrEP, même quand elle est intermittente. Ça, c'est la première chose à dire, qu'entre l'essai et la réalité, c'est deux choses distinctes. Maintenant, je pense qu'encadrer la PrEP, c'est super intéressant. Et à mon avis, c'est une idée pour l'avenir dans les centres de santé sexuelle, ceux qui délivreront de la PrEP un jour. C'est vraiment d'encadrer autour du dépistage des infections sexuellement transmissibles et aussi d'un counseling très important, au même titre que ce qui a été fait dans l'essai hyper gay. Voilà. Et je pense que ça correspond aussi à un public, notamment chez les homosexuels, mais pas que. Mais il y a aussi d'autres personnes pour qui se protéger par un préservatif ne pose pas de soucis. Donc il faut arrêter de vouloir mettre tout le monde sous PrEP et arrêter de vouloir mettre tout le monde sous préservatif. Il y a différents usages et il y a différents moyens aujourd'hui de se protéger. Ils ne sont pas tous aussi efficaces. C'est vrai que la PrEP, ce n'est pas 100%. Quand on vous dit que le préservatif, c'est 80%, c'est dans une seule vie. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des accidents de préservatif ou des jours où vous ne l'aurez pas mis. Mais quand vous mettez le préservatif et qu'il n'explose pas ou que tout va bien, bah, il protège à 100%, lui, à la différence de la PrEP.
Bon, Sébastien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, en question de Pluriel Gay, et puis je te souhaite une excellente soirée, puisque c'est l'inauguration de la quinzaine des cultures ce soir. La fête ne fait que commencer. Donc nous, on va aller faire un petit tour sur la fête pour voir ce qui s'y passe. Et bonne soirée à toi, et merci.
Merci beaucoup, Gérald, et à très bientôt.
Avec plaisir, toujours.
Pluriel Gay.
Et bien voilà, nous sommes de retour en direct live avec nos sœurs, sœur Anna Maria, sœur Marie-Dine.
Bonsoir.
Il fallait absolument qu'elle nous le refasse parce que...
Tout le temps.
Oui, tout le temps. D'ailleurs, parfois, on a l'impression qu'on a juste appuyé sur le bouton et...
Enfin, ça dépend sur quel bouton tu appuies.
Voilà, faut le trouver le bon. En tout cas, est-ce que vous auriez des choses... Vous avez donc écouté l'interview que j'ai faite de Sébastien Cambeau de l'ENIPS. Est-ce que vous auriez des choses à rajouter ou des réactions par rapport à ce qui a été dit dans cet entretien ?
Vas-y, pose des questions, parce que là, il y a eu beaucoup de choses.
Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. Bah, voilà, moi, il a évoqué, par exemple, on a évoqué l'autotest. Quelle opinion vous avez de l'autotest ? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ? Est-ce que vous trouvez que c'est dommage que ça en ait tant tardé en France à le mettre en place, etc. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus ?
Moi, je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'effectivement, faire des tests à l'hôpital, où, c'est... Pas tout le monde y va, parce qu'il y a quand même cette peur-là d'être face à l'autre. Il y a des gens qui préfèrent le faire chez eux. C'est comme le préservatif et puis Truvada quelque part, c'est trouver une autre façon de se dépister. Après, ce que je regrette, c'est quand même le prix de ce test, cet autotest, qui est quand même cher et qui du coup n'est pas accessible à toutes les tranches de population. Et on aimerait bien que ça change.
Et puis, enfin, il y a aussi une autre chose, c'est est-ce que les pharmaciens, du coup, qui vont délivrer ça, font un minimum d'accompagnement aux personnes avant la délivrance,
parce oui. que c'est toujours le problème de, voilà. D'avoir le résultat seul, quoi, en fait.
Mais après, on peut faire la même critique aussi au labo qui vous file une enveloppe et on se démerde avec.
Ouais.
Voilà, c'est donc est-ce qu'il y a quelque chose de prévu à côté, parce que enfin la solitude, c'est un des plus grands maux qui subsiste à l'heure actuelle, et enfin en tout cas à mon sens, et voilà, est-ce que à un moment il y a quelque chose qui est prévu pour les personnes qui vont accéder à ce test?
En effet, bonne question. Je ne pense pas. C'est une question à creuser, effectivement, puisque l'autotest est mis en place au début septembre, 1er septembre 2015, donc à la fin de l'été. Et ça sera l'occasion d'en reparler, d'ailleurs, justement, à ce moment-là.
Voilà, parce que, oui, enfin, sur le principe, oui, diversifier l'offre de dépistage, c'est une très bonne chose. Après, voilà, faut quand même prendre en compte la dimension humaine et pas uniquement médicale des personnes.
En ce qui concerne la désaffection, je dirais, le désintérêt pour, entre guillemets, pour la maladie, le VIH en général, est-ce que c'est une chose que vous avez constatée ? Vous allez peut-être me dire oui. Vous, non, puisque vous êtes en fond dedans, je dirais, hein, toujours. Qu'est-ce que vous auriez à dire à la jeune génération, justement, pour qui le VIH n'est plus un problème, apparemment ?
Eh bien, c'est une grande question qu'on se pose, qu'on s'est posée avec beaucoup d'associations, et on cherche toujours. Alors, on cherche des nouveaux moyens de communiquer avec les jeunes. Et c'est vrai que là, avoir entendu ce témoignage, eh bien... Effectivement, peut-être que c'est ça, peut-être que plus voir les symptômes, et ben ça fait que ben on pense que ça n'existe plus. Peut-être qu'avoir moi je suis de la génération très jeune, j'ai 24 ans. C'est vrai que depuis petite on m'a parlé du VIH, on m'a toujours dit mets un préservatif, j'ai toujours mis un préservatif avant d'avoir des relations plus stables, je veux dire, mais voilà.
Nous en pense moi-même en termes de la vie.
Parce que tu aimes ça, chérie.
Et voilà, parce que j'aime ça. Et je pense qu'on a, on pense que c'est quelque chose qui n'existe plus, qui fait partie de quelque chose qui a disparu, et que c'est quelque chose qui est fantasmé, que un truc de vieux peut-être.
Ouais.
Mais ça serait bien si les jeunes, ils pouvaient nous expliquer voilà. Comment leur parler.
T'as dit un mot qui était pas mal, c'était celui d'invisible. Mmh. Et ça fait aussi le parallèle avec les LGBT vieillissants, qui dans un imaginaire commun n'existent pas. Donc c'est.
Il n'y a pas de vieille pédale. C'est non. Ça.
On reste toujours belle et fraîche et entretenue.
Alors c'est le syndrome de l'éternelle jeunesse, n'est-ce pas, de l'homosexuel. Éternelle jeunesse toujours souhaitée, mais bon, hein, on sait qu'à un moment donné, à 20 ans, on est presque vieux chez les homos. À 30 ans, sœur Anna Maria, moi je dis...
Je ne sais pas, je suis intemporel.
Ah oui, c'est bien.
Comme Catherine Deneuve.
Oui, on a le même chirurgien.
Voilà, et Sébastien aussi disait une chose très intéressante, c'est vrai que, bon, on généralise un petit peu, mais dans l'ensemble, c'est vrai que la communauté gay, on va dire gay précisément, hein, bien à dessein que j'utilise ce terme, on a parfois l'impression qu'on vit dans une espèce d'hédonisme, parfois un peu sur le moment, et récemment, on vit sur le moment sans pas se projeter dans l'avenir. Bon, c'est un peu le phénomène, entre guillemets, de tous les jeunes, on va dire, quelque part. Je ne pense pas à leur retraite, par exemple, à l'heure actuelle, alors qu'on sait très bien qu'ils n'en auront pas, mais ça, on peut leur dire qu'ils s'en foutent un peu.
Je pense que les jeunes pensent à leur retraite. Je pense qu'ils n'ont pas de solution pour avoir une retraite, surtout.
Voilà. De toute façon, on leur dit qu'il n'y en a pas. Donc voilà. C'est clair déjà dès le départ. Du moins, ils partiront peut-être à 80 ans. Mais comme on va vivre plus longtemps, paraît-il, on pourra travailler plus longtemps. Par contre, en ce qui concerne la maladie, moi, j'avais fait un petit reportage, entre guillemets, enfin, un petit discours concernant, justement, il existe aux États-Unis notamment beaucoup de recherches et d'études faites sur les malades du VIH vieillissant, puisque là-bas tout se passe en communauté, il y a même des villages entiers où se réunissent des personnes qui ont le VIH, qui vieillissent avec le VIH, avec tout ce qu'il faut sur place, hein, comme médecins, etc., etc. Notamment à Palm Springs, il y a un lotissement entier, ce sont des gays, hommes, malades du VIH, qui se sont réunis ensemble, qui ont formé une communauté, et qui est surtout une aubaine pour les scientifiques et les chercheurs, pour avoir une étude justement de comment on vieillit avec le VIH. Et ben, c'est pas joli en réalité, on vieillit très mal avec le VIH, même si on est soigné. Alors d'abord il y a les effets secondaires, sans vouloir culpabiliser, hein, d'ailleurs ces études ne sont pas là pour culpabiliser, pour énoncer un fait, sans parler des effets secondaires liés à la prise donc de la médicamentation, hein, de la trithérapie, mais en plus tout ce que le VIH provoque, même en étant présent dans le corps, même s'il est plus actif, il y a par exemple, ça double le risque de développer des cancers. On s'est rendu compte que de toute façon, en règle générale, c'est une population qui avait un taux de comment on dit ?
Auto-immune ?
Ça certes, oui. Mais surtout moyenne d'âge, voilà, inférieure à la moyenne nationale aux États-Unis. Donc c'est-à-dire qu'on mourait plus tôt quand on avait le VIH, d'une manière ou d'une autre, même si on était soigné, en règle générale, et souvent parce qu'on développait beaucoup plus de maladies comme donc le cancer, mais aussi on s'est rendu compte au niveau du fonctionnement même du cerveau. Les maladies d'Alzheimer étaient plus développées chez les personnes qui ont le VIH, etc. Donc ça a vraiment des vraies conséquences. Même on se dit, alors ceux qui se disent, bon ben voilà, maintenant on peut faire ce qu'on veut, on s'amuse, le VIH c'est fini. Non, on peut prendre le VIH, on sera soigné, on n'en mourra pas tout de suite, mais à long terme, ça aura des conséquences graves sur le vieillissement d'une personne. Et ça, c'est les études américaines qui ont démontré.
De toute façon, comme toute maladie chronique, du coup, les traitements. De toute façon, un effet, ne serait-ce que sur les organes filtrants du corps.
Mais il n'y a pas que le traitement lui-même, il y a la présence du virus, neutralisé, qui en elle-même provoque des vieillissements prématurés, des tissus, etc. etc.
Du moment que c'est une maladie qui touche le système auto-immune, immunitaire, pardon.
Sauf que là, on est dans le cadre de dire que maintenant, les jeunes, ils n'ont plus conscience de ça, justement, les jeunes. je parle comme un vieux con, mais bon, ce qu'on disait, le fait d'être dans l'instant présent, un petit peu, on pense pas, on se projette pas à l'avenir. On se dit, bon, le VIH, maintenant, il va y avoir la Truvada, la PrEP, etc. Et en fait, on n'a plus conscience que c'est une maladie qu'on peut encore éviter, qu'on doit éviter, parce qu'elle a des conséquences sur le long terme. Voilà, je veux dire, on soigne d'autres maladies, on en a conscience, mais celle-là, elle paraît devenue invisible, comme on disait, sachant que pourtant, elle est grave, elle est encore grave, notamment sur le vieillissement de la personne. Comme si, à l'heure actuelle, on n'en avait même pas conscience de ça.
Bah, c'est-à-dire que le vieillissement des personnes séropositives, c'est quand même quelque chose d'assez neuf.
Voilà. Et aux États-Unis, c'est pour ça que justement, la recherche américaine est intéressante dans ce sens-là. D'abord, elle porte sur des groupes constitués et qui sont communautaires, comme ça se passe là-bas aux États-Unis, et qui sont des personnes qui, pour certaines, ont été infectées il y a 40 ans, par exemple, qui ont survécu et qui ont été infectées il y a 40 ans. D'autres plus récemment. Ces personnes qui arrivent à 50, 60 ans, pour certaines, à 60 ans, elles ont le métabolisme d'une personne de 80 ans, par exemple, ou de 85 ans en fin de vie. Et ça, c'est constatable donc par ces études américaines. Je veux dire, alors certes, à l'heure actuelle, c'est encore une maladie jeune, entre guillemets, mais on sait de plus en plus, et puis ça paraît évident, que le fait d'avoir un intrus comme le VIH dans son corps n'est pas anodin. C'est pas quelque chose qu'on peut vivre, avec lequel on peut vivre facilement, quoi. Donc il faut être encore prudent, quoi. Il faut en parler encore du VIH.
Bah, bien sûr.
Voilà. Et sous cet aspect-là, oui, je sais que les sœurs, elles sont toujours très investies là-dedans. C'est important. Moi, je tiens toujours à revenir là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a une absence un petit peu, mais de plus en plus, de silence autour de la maladie, comme si c'était réglé, mais ça ne l'est pas du tout, en fait. Il y a encore des conséquences.
Puis il y a encore énormément de stigmatisation des personnes séropo.
Voilà.
Même au sein d'une communauté, pour qui ces personnes-là font partie de leur histoire. Enfin, t'as qu'à voir quand tu te rends sur un site de drague sur Internet. Voilà, une des premières choses qu'on te demande, c'est si tu es
oui, bien clean, sûr, comme on dit.
Voilà. Même la terminologie est assez dure à recevoir.
Ouais.
Pour
quelqu'un qui est concerné. Quoi.
Voilà.
Alors, pour changer de sujet de conversation, quoique le sujet soit intéressant, on pourrait le développer encore, mais je voulais juste revenir sur ce que je disais avant l'interview de Sébastien, concernant donc le don du sang. Je disais, dimanche 14 juin, c'était la journée internationale du don du sang, et les homosexuels en France, en tout cas, sont toujours exclus du don du sang, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, hein, ça ne concerne pas que la France. Marisol Touraine, je crois que c'est elle, hein, qui avait donc fait une ouverture un petit peu pour modifier, puisque...
Oui, enfin, elle a entrouvert la porte et puis elle a vite refermé, il y avait du courant d'air.
Elle a rentré ses filles. Elle a rentré ses filles,
non ouais, ou ses boules de guichet, on ne sait pas.
Hein.
Ouais, mais en tout cas, ça a été baillé, mis sous le tapis, quoi, cette affaire. Le fait de modifier un petit peu l'accès, justement, au don du sang pour les homosexuels qui souhaiteraient donner leur sang, justement.
C'est-à-dire que c'est le questionnaire, alors pour avoir donné mon sang pendant assez longtemps, le questionnaire est très con parce qu'il ne se base pas sur la...
les pratiques, en fait.
Il ne se base pas sur les pratiques des personnes, il se base sur leur sexualité.
Et sur autre chose. Bah non, il se base aussi sur la drogue et puis sur...
Oui, bah alors ça c'est...
Les tatouages.
Oui, voilà. Enfin, ça, c'est des conditions sanitaires. Enfin, si tu mets du sang de drogué dans quelqu'un, ça peut faire des mauvaises réactions, tout ça.
Les tatouages.
Non, mais en fait, tatouage, c'est quand c'est risque de...
En fait, sur Anna Maria, ce que vous voulez dire, c'est le fait qu'il y ait la mention homosexuelle qui est absolument rédhibitoire, ce qui est...
Oui.
Voilà. Qu'un hétérosexuel peut aussi avoir des pratiques à risque et finalement il pourra donner son sang.
Voilà.
Bien sûr.
Et beaucoup plus facilement que qu'un homme gay qui serait en couple fidèle depuis 20 ans, qui ne pourrait toujours pas.
Ben voilà. Donc Marisol Touraine, c'est vrai, avait assez entrouvert, comme tu disais, un petit rayon de lumière, mais vite éteint, parce que je ne sais pas pourquoi, mais ça crée encore beaucoup de problèmes. Et j'imagine pourquoi, c'est par rapport à l'opinion générale, en fait, je suppose. L'opinion générale recevrait mal le fait qu'on ouvre, à cause aussi de la stigmatisation qui persiste aussi, d'ailleurs.
Il y a aussi sur d'autres domaines, on retombe aussi sur les mêmes problématiques, comme pour les soins funéraires. Voilà. Personne séropo, alors que même les professionnels du coup du secteur disent que en prenant les sécurités de base qu'ils prennent avec n'importe quel client, je pense, hein, ça doit être ça.
Bah oui. C'est un business aussi. Voilà. Hein.
Oui, mais c'est un business utile. Et disent que avec les précautions de base, il n'y a pas de risque sanitaire.
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des mesures qui ont été prises dans les années 80, début des années 80, au moment de l'explosion de la maladie, alors qu'on ne connaissait pas tous les tenants et les aboutissants. Voilà. Maintenant, on sait comment, par exemple, c'est vrai que les soins post-mortem, on sait comment se prémunir et se protéger très facilement de quelqu'un qui est décédé du VIH sans aucun problème. On a entendu parler aussi de soi-disant, paraît-il, certains dentistes refusaient encore. Oui. 30% des dentistes refuseraient encore de prendre en charge des personnes malades concernées par le VIH, en tout cas, qui donc seraient ouvertement, je dirais, quelque part, concernées par le VIH et refuseraient les soins dentaires.
De toute façon, ouvertement ou pas, à un moment, il y a la carte vitale qui arrive.
Et la carte vitale
C'est-à-dire que...
Explique-nous, Anna-Maria.
C'est-à-dire que comme tu es...
Il y a tout dans ma carte vitale. Par exemple, on sait que moi, j'aime les jeunes de moins de 20 ans. Non, je rigole.
Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que comme le VIH fait une ALD, donc une affection longue durée, donc il y a des renforcements particuliers sur certaines choses... De toute façon, ça apparaît à un moment...
Mais l'ALD, ça peut être un cancer, ça peut être...
Il y a des codifications. Pour
d'accord.
Ça. Donc, c'est la sécu, c'est tout codifié.
D'accord. Donc le dentiste peut avoir accès au dossier médical en fait complet du client.
Alors je sais pas s'il a accès à tout ou partie des informations. Ça... Ouais. Mais en tout cas, ça, c'est, vu que ça fait partie de ce qui fait qu'ils demandent qu'ils prennent le tiers payant ou pas. Enfin. Il y a des choses que ça engage derrière,
d'accord.
Suivant les traitements. C'est des choses auxquelles ils peuvent avoir accès.
D'accord. Donc pour les sœurs, de toute façon, la lutte contre le VIH est toujours une priorité. Ça, on l'a bien compris.
Et elle continuera.
Et elle continuera. Oui. Voilà. Bien, mon petit Bernardo, ce qu'on va faire, on ne va pas mettre de chansons parce que le temps a tourné. On va passer à Edwige. Alors, on va plus orienter notre dernière demi-heure sur la marche. Et puis, évidemment, vous pourrez intervenir sur les sujets que vous aviez préparés. Alors, je ne sais pas si on avait beaucoup.
Non. Pas beaucoup, mais de la qualité.
Mais de la qualité. Vous vouliez, de quoi voulez-vous nous parler déjà avant d'envoyer Edwige ? Que ça, on saura.
Alors, on voulait parler de Ducamp.
Ducamp, d'accord.
Ducamp. Ah oui, c'est Ducamp, c'est ça.
D'accord.
Et son régime merveilleux, puis alors ses propos sur le mariage pour tous, la pilule, ouais. tout ça. Mmh. Et la deuxième, c'était.
C'était Christine. Alors, pas Boutin, mais on aurait pu le croire.
Ouais. Une boutinerie, elle a pu faire quasiment.
Voilà, mais elle, c'est Edouardé. Oui.
Donc, elle vient
chez
de l'intérieur.
Osé Féminisme.
Elle vient de l'intérieur, je dirais. Boutin, c'est une ennemie extérieure. Christine Ledouaret, elle est de l'intérieur de la communauté.
Ah oui, mais c'est les agents doubles.
Voilà, on en parlera tout à l'heure. Non, mais écoutez, Edwige Martim, Edwige, je l'avais reçue ici, donc avant le début de la semaine de la quinzaine des fiertés. Et j'ai retrouvé donc au Live Station, parce que le soir de l'inauguration était très occupé, on n'avait pas pu la coincer aussi. Et du coup, elle nous a un petit peu parlé des mes aventures de la marche, notamment par rapport à la préfecture. Et aux autorisations de la préfecture hein, qui ont été données à certains groupuscules contre la GPA, par exemple, qui ont manifesté contre la GPA, alors que la LGP a été interdite de marche dans le 5e, on va dire. Mais elle va nous en parler très bien, mieux que moi. C'est parti, mon kiki.
Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Finalement, après bien des péripéties pour mettre la main sur Edwige hier à l'inauguration donc de la quinzaine des cultures. Nous étions hier donc au musée Gadagne et aujourd'hui nous sommes au Live Station pour le brunch Rainbow de la LGP.
Le Rainbow Brunch plutôt. Dans
voilà,
le sens.
Bon alors le Rainbow Brunch dans ce sens-là. Le brunch arc-en-ciel donc voilà, tout simplement de la LGP. Alors Edwige, tu es présidente de la LGP. Nous te connaissons bien sur Radio Pluriel. Tu es souvent venu nous voir. Et hier donc les festivités, je dirais, ont été lancées au musée Gadagne avec donc une représentation théâtrale. Et aussi des discours. Discours, évidemment, que tu as fait au nom de la LGP. Un discours... Alors, nous, on n'a pas pu entrer parce qu'on est arrivé un peu tard et la salle était comble.
Oui.
Bon, ça peut déjà évoquer le succès.
Ça a été un grand succès. On avait donc beaucoup de personnes qui étaient présentes dans l'amphithéâtre où on avait la représentation de théâtre. À la base, on avait seulement le parterre qui avait été ouvert. Et au final, tellement de monde arrivait qu'on a ouvert les balcons aussi pour qu'ils puissent rentrer. Donc, il y avait quand même du monde dans cette salle. Et après, on ne pouvait pas dépasser sa capacité, hélas. Donc, on a été un peu frustrés pour les personnes qui auraient aimé être présentes. Et on s'excuse parce que finalement, ça a été la rançon de la gloire hier soir et on était vraiment, vraiment contents. Et puis derrière, effectivement, des discours qui se sont enchaînés et nous étions très, très, très heureux de pouvoir être dans les musées Gadagne, que l'équipe nous accueille. On était très contents aussi de tout ce qui s'est passé au long de la soirée parce qu'on a repris des droits dans le 5e arrondissement et oui, on aurait aimé faire passer la marche cette année là-bas. On a accepté de concéder de ne pas y passer cette année. Mais voyant qu'il y a eu un rassemblement anti-GPA, ça nous a encore plus confortés à dire on commençait à annoncer qu'on aimerait passer dans le 5e et on finira par y passer. Nous avons le droit, nous aussi, d'occuper cet espace-là. Lyon appartient à tout le monde et c'est peut-être aussi à la marge des fiertés d'arrêter de se cantonner qu'à certains arrondissements.
Alors donc, quand tu étais venu nous voir il y a 2 semaines à l'émission, tu avais déjà évoqué des problèmes, malentendu en tout cas avec la préfecture. Là, le malentendu, c'est plus qu'un malentendu puisque finalement, une manifestation, comme tu l'évoquais, a été autorisé dans le 5e, que tu as évoqué, donc devant les 24 colonnes.
Oui.
Et il se trouve que la préfecture, en parallèle, vous a refusé donc le trajet. Alors, vous, comment vous interprétez cette attitude de la préfecture ?
Alors, au départ, ce qui s'est passé pour le refus, c'était, comme ils l'ont évoqué d'ailleurs, un problème pour eux de sécurisation par rapport au fait que 2 ponts allaient être exploités et que c'est pour permettre aussi aux services de sécurité incendie de pouvoir, si jamais il y a besoin, faire les trajets par les voies les plus dégagées qui soient, dont ces ponts-là. Or, de l'autre côté, on va quand même passer par les quais Victor Gagneur. On va quand même exploiter 2 ponts. C'est qu'on sait, nous aussi, à un moment, faire en sorte de dégager un des ponts pour pouvoir entamer l'autre. Enfin, voilà. On peut aussi, nous, gérer le cortège de façon la plus optimale qui soit. Donc, on a accepté plus ou moins cet argument pour cette année, mais on s'est dit, ça fera justement l'exemple en passant par les quais Gagneur. Et pour l'an prochain, on pourra plus nous dire ça. Donc, on avait compris quand même l'aspect de sécurisation. On avait entendu aussi un argument qui était que la préfecture souhaitait limiter au maximum le nombre de manifestations qui pouvaient avoir lieu dans le 5e arrondissement pour des raisons de sécurité par rapport à des groupuscules identitaires qui se trouvent par là-bas. Mais généralement, ces mêmes groupuscules ont le droit de manifester, de faire des choses, alors pourquoi pas nous ? Après tout, Lyon et surtout particulièrement le 5e, ce sont des berceaux à la base, je pense au 4e et au 5e, des berceaux de lutte. C'est quand même là où on a eu des plus grosses révoltes lyonnaises à la base et c'est quand même de là que sont partis les plus grands résistants de chez nous. Nous aussi, on a le droit d'être de ce côté-ci de la ville et de ce côté-ci des quais.
Mais donc, je peux comprendre la frustration de l'LGB par rapport aux 2 poids, 2 mesures, en quelque sorte. Mais comment vous l'interprétez, justement, de la part de la préfecture ? C'est une volonté délibérée ? Est-ce qu'il y a quelque chose en filigrane là-dessous ?
Je ne saurais pas te répondre.
Il faudra interroger le préfet.
Voilà, c'est quelque chose qu'on interrogera. Et à un moment, il faudra peut-être qu'on arrive à trouver l'explication, mais la véritable explication. Est-ce qu'on aura en face de nous un discours réel ou un discours langue de bois ? Finalement, on le découvrira un petit peu à l'instant T où ce discours arrivera. Ce sera à nous, après, d'en faire ce qui nous paraît le plus cohérent. Mais ça, c'est à voir. On verra, on questionnera.
Donc, j'évoquais tout à l'heure ta prise de parole donc pour l'inauguration hier devant cette salle comble. Et on m'a dit, donc comme je disais, on n'a pas pu entrer, mais tout le monde a dit que Edwige a fait un discours très musclé. Alors, quelle était la teneur de ce discours ?
Un discours très, très musclé, moi déjà quand je le prononce, je ne fais pas très attention à ce que je raconte, hormis porter mes revendications et les revendications de la Lesbian and Gay Pride de Lyon. Donc si je les porte, ces revendications, à ce moment-là, c'est parce que j'y crois et du coup c'est peut-être la verve que je mets dans tout ça qui porte aussi pas mal. Mais en tout cas, nous avons rappelé qu'effectivement, nous avons obtenu des droits jusqu'ici. Nous sommes contents, mais ça nous appartient aussi de continuer à marcher pour continuer de les préserver. Parce qu'on sait très bien que certains droits peuvent sauter à n'importe quel moment. Donc aussi, il y a cette partie « préservons ce que nous avons obtenu ». Et puis il reste des choses à obtenir, notamment la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, qu'elles soient célibataires ou en couple avec une autre femme, la filiation pour les couples mariés aujourd'hui, parce que qu'on regarde, oui, on a le droit de se marier, mais pour être reconnu comme une famille, on a encore beaucoup de démarches à faire et on souhaiterait ne plus avoir cette situation-là. Les statuts de beaux-parents aussi à prendre en considération. Nous avons les droits des personnes trans, avec le fait qu'on nous avait promis qu'il y aurait la possibilité d'avoir un droit à changer d'état civil de façon simplifiée et gratuite en mairie, et toujours rien aujourd'hui, 2 ans plus tard, alors qu'il y a des contraintes qui sont financières, des contraintes juridiques. C'est un vrai parcours du combattant encore aujourd'hui. Et quand j'entends ce que ça peut coûter à une personne qui fait la transition et qui cherche à obtenir son état civil, c'est juste aberrant, c'est n'importe quoi. Donc on a aussi cette partie de revendication là. Et puisque la GPA, on arrive de mieux en mieux à la mettre sur l'espace public, on arrivera peut-être enfin à avoir ce débat serein entre toutes les sensibilités sur la question, et peut-être à trouver en France un moyen d'être beaucoup moins hypocrite, et puis d'arrêter d'avoir d'un côté un ministre qui nous fait une circulaire qui ouvre la reconnaissance des enfants nés par GPA de parents ressortissants français, et de l'autre, Madame Rossignol, qui souhaiterait faire des accords binationaux pour interdire les ressortissants français d'aller dans les pays qui autorisent la GPA pour faire une GPA. C'est quoi ces discours-là ? Donc on ne peut pas accepter ça non plus. Et toujours, bien sûr, la protection des personnes prostituées, donc les travailleurs et travailleuses du sexe, qui hier, hélas, ont vu passer à l'Assemblée nationale le vote qui valide l'inversion de la charge des peines et donc la répression auprès des clients, des prostituées. Nous ne sommes pas pour les réseaux proxénètes, toujours pas, je le répéterai, je le martèlerai. Nous ne sommes pas pour la traite des personnes. En revanche, nous savons qu'il y a une situation où des gens sont en précarité par rapport à la prostitution, et plus on continuera de les précariser par des lois d'abolition, moins on les aidera, et plus on les isolera, plus on leur fera prendre des risques sanitaires, des risques face aux agressions, aux violences, et des risques face aux réseaux.
D'accord, donc on peut dire que la LGP tient la barre, toujours dans la même direction. Toujours. Très bien. Alors Edwige, merci, et puis très bonne marche donc le 20 juin, et puis comme j'ai le droit, j'ai embrassé la présidente pour clore notre interview.
Merci pour cette bise, merci beaucoup pour votre présence et puis pour nous accompagner depuis ces années.
Très bien,
merci.
Énorme succès alors.
Oui, on espère.
Pluriel, 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 pluriel.
Yeah. Voilà, c'était donc Edwige, présidente de la LGP, donc qui a un peu donc recadré un petit peu en tenant bien à dire que la LGP continuait toujours dans la même orientation, défense des personnes prostituées, défense des droits des trans, etc. Parce qu'on avait un peu reproché, en général d'ailleurs, en mot d'ordre, d'être un petit peu consensuel, un petit peu gentillet cette année. Même celui de la LGP Lyon m'avait dit, nous on n'a pas changé, rassurez-vous, là c'est les 20 ans, on marque le coup, mais on est toujours dans la même optique. Alors juste très rapidement, parce que malheureusement le temps tourne, mais vous avez donc entendu parler, alors c'est une manifestation de la GPA, contre la GPA, c'est des groupuscules, moi j'appelle ça des groupuscules, en fait c'est la manif pour tous, avec des groupes d'extrême droite, je pense, localisés dans le 5e. Donc vous, ça, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Vous savez que normalement, il y a une autre manif qui est prévue demain, on ne va pas leur faire de la pub, malheureusement il faut en parler, à nouveau, ce qui a mis encore plus en colère la LGP, donc toujours dans le 5e, devant le palais de justice, les 24 colonnes. Et vous, ça vous gonfle, j'espère, les sœurs.
Ah, je savais pas quoi foutre demain, ça va être marrant. Voilà. Putain.
Vous allez y aller avec vos talons et puis foutre des coups de pied au cul.
Ah non, pas avec nos talons, mais avec plein de joie, d'amour et des panneaux. Ouais. Non, c'est vrai, non, mais c'est une bonne idée.
Ah bah oui. C'est à quelle heure?
Ah bah ça, je sais pas. Je me suis pas trop renseigné.
Ah bah attends, parce que faut que je fasse mes ablutions, tout ça. Non, mais vous croyez que ça se prépare comme ça?
Je voulais pas leur faire de la pub. Bon, alors donc hier, mes sœurs, vous étiez à l'inauguration, j'allais dire la deuxième inauguration du centre LGBTI, mais là le centre LGBTI est devenu un forum des associations, on va dire, dans lequel se sont greffés, donc il y a ARIS, le FGL, deux associations historiques, on peut dire, communautaires LGBT à Lyon. Vous y étiez, mes sœurs, je crois, Marie,
oui.
Je sais pas si vous y étiez, vous aussi, voilà. Tout s'est bien passé, il y avait des petits fours et du champagne.
Oh, c'était merveilleux, il n'y avait pas de champagne.
Il n'y avait pas assez à manger.
Mon Dieu, on dirait Bernardo. Alors, qui parle. Donc, du coup, le fait que le FGL ait rejoint, je dirais, le centre LGBT, est-ce que c'est une bonne chose? À me dire oui. Est-ce que déjà il y a plus de place?
Oui, après, bon, moi, à titre personnel, j'ai un attachement tout particulier au local du 17 rue des Romarins.
Parce que tu as laissé là-bas une histoire, indélébile.
Et des culottes.
D'accord.
Et des litres et des litres.
De peinture, parce que tu as souvent refait la peinture.
Mais oui. Ah,
d'accord. Donc du coup...
J'ai aidé à faire les travaux.
Putain, c'était dur. non, mais on est très contents parce que du coup, ça nous a permis de rencontrer d'autres associations, parce qu'on est quand même 25 là-bas. Oui. Il y a différents étages. On peut travailler avec plusieurs personnes. On a quand même plus de place pour accueillir du public aussi. Et on se fait plus connaître.
Oui.
Après, il y a d'autres choses aussi. C'est quelque chose qui peut pousser à la cohésion, à une cohésion un petit peu plus grande des associations, malgré le fait qu'il y ait d'énormes différences entre certaines. Enfin,
on peut pas les empêcher, les différences.
Non, mais c'est
enfin, il faut pas que ce soit.
Non. Ben justement, c'est ça.
Incompatible complètement.
C'est ça qui est assez merveilleux, c'est qu'on a des associations qui sont sur des thématiques, tellement différentes, sans être opposées, mais tellement différentes les unes des autres que ça crée une vraie richesse et une dynamique que j'espère voir perdurer.
On le souhaite tous, parce que c'est vrai que Lyon avait besoin d'une grande maison des associations LGBT, un peu à l'exemple de ce qui existe déjà à Paris. Alors, je fais une petite transition. Oui, sœur Anna-Maria.
Si on peut éviter de faire la même qu'à Paris.
Ah oui, d'accord. Bon. Alors, justement, pour venir au centre LGBTI de Paris, vous vouliez parler, on a évoqué Christine Ledoaret. Ledoaret, pourquoi je parle du centre LGBTI de Paris? Parce qu'elle a été très longtemps présidente du centre. Hein, dont elle a été parmi les fondateurs aussi à Paris. Seulement, Christine Douaret, voilà, elle fait des boutinades, comme vous le lisiez. Alors, dites-nous un petit peu, vous aviez regardé un petit peu ses écrits, je crois. Ça vous avait hérissé le poil ou le pistil ou je sais pas quoi.
Hérissé, c'est pas le mot. Ouais. D'abord, on vomit.
Ah oui,
après, on sourit. Après, on pense que c'est une blague.
Et après, on réfléchit au sens de notre vie.
D'accord, carrément.
Ouais, ouais, voilà. Ça nous a beaucoup remis en cause. Ouais.
C'est vrai que Christine, dans ses écrits, Christine Ledoaret, a évoqué notamment la LGP de Lyon.
Et ses prises
de position dont on a entendu parler sur la prostitution, le droit des trans, etc.
Voilà, elle a fait un article justement à la suite du vote sur la loi de pénalisation des clients. Et donc. Toi qui as fait de la recherche bibliographique.
Enfin, j'ai eu l'article.
Absolument.
J'ai relu l'article cet après-midi. Il m'a fallu longtemps pour le lire. Hein. C'est un espèce de, je sais pas, de fourre-tout entre islamophobie, putophobie, transphobie. On voit qu'elle est un peu aigre par rapport à l'LGP, ce qui est...
Ça, c'est parce qu'elle ne maintient pas son équilibre intime.
Je pense aussi qu'elle a mal vécu le fait que oser le féminisme à Lyon se désagrège, je dirais, quelque part, et qu'il se retire par rapport à l'antenne de Paris, parce que moi, sincèrement et personnellement, je pense effectivement que oser le féminisme Paris est islamophobe et tient des positions sur le voile qui ne me conviennent pas, comme les positions sur les putes et sur tout ça. Voilà.
On parle beaucoup d'un féminisme conservateur, en fait.
Oui, mais c'est exactement ça. Hein. C'est la branche paternaliste du féminisme.
Oui, c'est... Non, mais voilà, c'est des femmes qui veulent expliquer à d'autres femmes qu'elles savent mieux qu'elles comment gérer leur vie. C'est bien de vouloir... Enfin, je veux dire à une femme, voilée, je vais t'ôter ton voile parce que je pense que c'est mieux pour toi. Je trouve ça très paternaliste et ça joue le jeu de l'hétéropatriarcat, finalement... plus qu'autre chose, je veux dire. C'est comme dire aux putes, ne vends pas ton corps, je pense que c'est une mauvaise chose pour toi. Je pense plutôt qu'offrir des solutions, d'autres solutions, c'est bien aussi, et permettre aux personnes de s'exprimer, les personnes oppressées de s'exprimer, c'est mieux, et leur laisser un temps de parole plutôt que parler à la place d'elles, c'est quand même bien.
Oui, puis peut-être que de lutter contre le proxénétisme plutôt que contre les putes, ce serait quelque chose d'un peu plus enrichissant. Ouais.
En fait, c'est pas les bonnes solutions. Que la loi, on évoque là la loi de, par exemple, de pénalisation des clients qu'évoquait Edwige aussi dans son interview. C'est pas une bonne solution non plus. Parce que finalement, cette loi, elle arrive, on va pénaliser les clients, mais qu'est-ce qu'on fait des prostituées? On les aide pas. Dans ce cas-là, on les enfonce, comme elle disait Edwige. Au contraire, on a plus de précarité. Et croire que ça va faire disparaître la prostitution, c'est un.
Ah, mais on a un exemple merveilleux sur Lyon. Vous vous souvenez que, fut un temps, il y a, et jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, parce que quand j'ai emménagé sur Lyon, c'était encore le cas. Il y avait un moulon de pute tout le long du cours Charlemagne. Mais maintenant, on a un nouvel hôtel de région, alors on peut pas se permettre d'avoir une mauvaise image comme ça. Donc voilà, on les chasse, on les envoie dans des endroits où on peut où le grand public entre guillemets ne peut pas les voir. Comme ça fait tout propre et on a éliminé la prostitution.
Et elles se mettent en danger en étant pas visibles.
Dans des endroits qui sont très peu fréquentés, donc où elles sont plus susceptibles aux agressions, plus voilà, la clientèle se faisant plus rare, la négociation de la passe est pas peut être plus compliqué, voilà.
Et pendant ce temps, en Suisse, par exemple, à Zurich, on peut dire ce qu'on veut sur les Suisses, à Zurich, on installe, par exemple, des box pour les prostituées où elles peuvent se laver, où elles peuvent, entre les passes, où elles peuvent se tenir au chaud l'hiver, et où il y a même des places de parking pour les clients, etc. Bon, je veux dire, c'est deux approches différentes, on va dire, du traitement, je dirais, de la prostitution. C'est pas de l'encadrement de la prostitution style on réouvre les bordels, c'est vraiment créer des aires pour les prostituées finalement où elles seront un espace à elles, où elles pourront, et pour les clients aussi, pour plus de... Parce que la prostitution, on pourra jamais la faire disparaître, on est d'accord, il y a des formes en plus de prostitution, il n'y a pas que la prostitution de rue, il y a des formes très variées, il y a internet maintenant, c'est un leurre quoi, je veux dire, c'est pour amuser le bourgeois, j'en sais rien quoi, le bourgeois qui est le premier à aller normalement aux putes, hein, c'est le premier à critiquer, mais c'est lui, il y va aussi. Elles ont bien des clients, bon sang.
Il faut bien qu'elles fassent tourner la boutique.
Voilà, c'est pas en pénalisant le client. Quoi. Enfin bon, ici on est d'accord là-dessus, on est tout à fait opposé à cette loi. Donc les sœurs aussi, je vois.
Voilà, ça,
opposé. On pense. Enfin moi je pense que c'est pas la bonne solution en tout cas.
Surtout à quoi je suis opposé, c'est à la traite des personnes et donc.
Du proxénétisme.
Au proxénétisme. Mmh. Voilà. Une personne qui gagne sa vie en vendant son cul, à la limite, ça me regarde même pas.
Puis après, on peut
moi
tout...
aussi. Hein.
Oui, non, mais...
je sais pas, tu as levé la réteinte là d'un coup.
Non, mais je pensais à la même chose, par exemple, pour la GPA, quelqu'un qui voudrait porter un enfant pour quelqu'un d'autre. Moi, tant que ça tombe pas sur la traite d'humains, ça ne me dérange pas, en fait. C'est leur problème.
Oui, tout à fait. La GPA, pour citer un exemple, moi je peux citer un exemple d'une personne, par exemple, qui d'elle-même a proposé à un couple de garçons de porter leur enfant.
Voilà.
Sans aucune contrepartie financière.
Moi, ce qui me dérange avec tous ces problèmes-là, c'est que de toute façon, on en revient toujours au fait que la femme ne peut pas gérer toute seule et qu'elle tombe toujours sous la traite des hommes et qu'on veut la protéger. Je pense qu'on peut se protéger, je pense qu'il faut qu'on se batte.
Tu comptes la victimisation permanente.
Et si vous la voyez, putain, elle vous file un lion, vous savez qu'elle peut se protéger. Hein, mais...
D'accord. Donc malheureusement, l'heure tourne. On n'a pas pu parler du camp.
Ah, oh, mais du con, reste du
con. Ça vaut peut-être pas le coup. Parce que qu'est-ce qu'il a dit, lui,
monsieur? Ah, du con a dit que de toute façon, si les gens étaient obèses, c'est à cause de la pilule et du mariage pour tous.
Ah, bon, ben voilà.
ça fait un résumé assez...
Mais bon, il a quand même été radié parce qu'il y a... Quelque temps, il avait fait, il voulait lutter contre l'obésité. Il avait dit que pour lutter contre l'obésité, du coup, il fallait, il fallait pénaliser les gamins au bac qui n'avaient pas un IMC qui était plus. Haut.
D'accord. Voilà. Bon, donc finalement, on a bien fait de pas trop développer le sujet. Je crois que.
Bah du con, te hais.
On va le laisser en orbite. du camp. Voilà. Voilà, donc l'émission va toucher à sa fin. Alors, vous vouliez parler quand même, à juste titre. Il y a plusieurs soirées officielles samedi soir après la marche. La marche est donc le 20 juin, c'est départ de Bellecour à 14h30.
14h30
ou 14h. 14h,
enfin, quelque chose comme ça.
Voilà, rassemblement à 14h. Les sœurs seront là, toutes de paillettes vêtues.
Oui.
Voilà, pour nous donner de l'amour, de la joie, du bonheur.
Et des capotes.
Et continuer à lutter contre le VIH, exactement.
Et oui, puisqu'il faut prévoir la soirée après. Hein.
Bien sûr. Donc, on a dit plusieurs soirées officielles, et donc celle organisée, alors qui était jusque-là organisée dans les anciens locaux par le FGL, rue Romarin, c'est ça?
Oui.
Et non, c'est déplacé dans le centre, beaucoup plus grand.
Rue des Capucins. La rue est toujours fermée.
Voilà. Ça sera donc la fiesta à partir de 19h après
l'apéro Pride.
Ouais. L'apéro Pride. La rue est à vous.
Au profit et du centre et du FGL. Et par contre, il y a un autre apéro aussi qui est au profit de la LGP. Donc, c'est le citer aussi. Voilà, on va citer que ce qui est au profit des assos parce que merde.
Le message est passé. Donc, mes sœurs, on se retrouve samedi sur les pavés lyonnais. vous allez affûter vos talons aiguilles et vos cornettes, je suppose.
Oui, alors, pas les talons, hein.
Ouais. Non. Alors, voilà, c'est les erreurs de débutante, les talons pendant une marche.
Ouais. Ah oui. Sœur Anna Maria, pouvez-vous en parler, vous
avez. Oui, ma première marche, je l'ai faite avec 15 cm de talons, ouais. Et j'ai dit plus jamais.
D'accord. Ouais. Anna Maria, évidemment, pour elle, la route qu'il y a là derrière elle, elle a beaucoup de route, elle a beaucoup d'expérience.
Non, mais elle fait des erreurs. Hier, elle a fait une grosse erreur.
Ah non, j'étais magnifique.
D'accord. On pourra pas en savoir plus parce que l'émission va toucher à sa fin. Mes sœurs, merci d'être venues. On se retrouvera l'année prochaine, bien sûr, parce qu'on tient à votre présence régulière ici sur les ondes de Pluriel Gay. On n'aura pas eu le temps d'écouter Rihanna Foot, mon petit Bernardo, du coup. On a entendu le début de Rihanna Foot, puis on lui a coupé la sifflette, hein, parce que Bernardo s'est trompé de son, il nous avait envoyé Rihanna Foot. Mais Rihanna Foot, si tu nous écoutes, excuse-nous, je te promets qu'on passera ton son une prochaine fois. Promis, dans une prochaine émission. On va terminer l'émission. Merci Bernardo d'avoir été là avec Blur, hein, on va s'envoyer Blur. Merci mes sœurs, je vous embrasse très fort.
Merci.
Amour et paillettes, comme vous dites.
Amour et paillettes.
Oui. Hein, voilà.
Prenez soin de vous.
À bientôt.
Et bonsoir.
Ah bah voilà, nous le fallait celui-là, hein, parce qu'on n'aurait pas pu terminer l'émission en beauté.
Oui,
on peut le refaire là, on est toujours en ligne.
Et bonsoir.
Mais c'est beaucoup de travail ce bonsoir, je pense.
Ça fait très cochonne.
Ah bah c'est une cochonne de toute façon.
L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.